Les banques canadiennes font partie des placements les plus appréciés au pays. Des rendements solides, des dividendes fiables, des modèles d'affaires robustes. C'est difficile de ne pas les aimer. Mais derrière cette histoire presque parfaite, il y a une question qu'on se pose rarement et qui pourrait changer complètement la façon de les voir. Dans mon commentaire de cette semaine, je prends un pas de recul, pas pour être négatif, mais pour être lucide. Si vous détenez des banques ou si vous songez à en acheter, ça vaut la peine d'écouter ça. Bonne écoute! Cette semaine, je vais parler d'un secteur d'activité dans la bourse canadienne qui est, je pense, le plus aimé des investisseurs, c'est d'investir dans des banques canadiennes. Puis, je pense que l'année dernière, ça l'a réconforté beaucoup d'investisseurs, ce type de croyance-là, avec raison, parce que les banques canadiennes, je dirais depuis 5 ans, mais ou certaines de plus récemment, du moins l'année dernière, ils ont observé vraiment une belle performance qui a bien récompensé les investisseurs. Puis c'est facile de tomber en amour avec les banques canadiennes parce que lorsqu'on regarde le secteur d'activité, ces entreprises sont exceptionnelles. Les banques au Canada, c'est un oligopole qui est protégé. Il y a un nombre limité de banques, donc ils ne vont pas avoir de nouveaux entrants. Il peut y avoir des fois des menaces de fintech, mais grosso modo, ils ont leur part de marché. Puis on a vu aussi durant la crise financière que les régulateurs, puis la manière de faire affaire au Canada, au niveau des banques canadiennes, c'est un modèle qui est vraiment robuste. Puis, évidemment, bien, ils ont une capacité d'augmenter des frais de changer le modèle d'affaires parce que c'est un oligopoly, bien, ça récompense les clients qui nous écoutent, les investisseurs. Puis finalement, ils ont un modèle qui est quand même pas trop énergivore en termes de capital, donc ils ont un rendement quand même élevé. Finalement, si on regarde l'historique, ils donnent des bons dividendes, toujours en croissance. Ils sont disciplinés d'un point de vue de la gestion du capital. Et au final, si on regarde sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont très bien récompensé les actionnaires. Donc, tu as une marque de commerce que tu connais, tu as une perception de solidité, puis tu as des rendements autour de 10 % année après année qui sont livrés de manière prévisible. Donc, les banques, on aime ça. Puis je ne dis pas que c'est un mauvais secteur, je ne dis pas que ça a la place dans son portefeuille, mais des fois, ça peut avoir trop de place. Puis c'est là qu'on veut relativiser. Puis pourquoi ça a bien fonctionné? Je dirais que depuis la crise financière, puis même avant, depuis 20 ans, puis j'irais même plus loin que ça, depuis 1995-2000, les banques ont vraiment bien fait. Puis si on a bénéficié quoi? Les planètes sont vraiment, ils avaient été bien alignées. Puis ce que je veux mentionner, c'est que je ne dis pas que ça va changer du jour au lendemain, mais ça se peut que ces facteurs-là favorables, conjugués ensemble, ne soient pas toujours là, puis que ce soit difficile à reproduire cet environnement-là. Donc, les banques ont un modèle intéressant, mais ils ont manœuvré depuis 20 ans dans un environnement très favorable. De 1983 jusqu'à aujourd'hui, à part l'exception de 2022, les taux d'intérêt sont en baisse. Donc ça, on vit dans un marché où il y a de plus en plus de liquidités. Les taux d'intérêt sont bas. Ce que ça amène les gens, c'est d'emprunter pour acheter des entreprises, c'est d'emprunter pour acheter des actifs comme l'immobilier. Ce qui fait que c'est vraiment un secteur qui va bénéficier des banques. Au Canada, en plus, l'immobilier a explosé, surtout si on regarde dans des régions ou des métropoles comme Toronto, ce qui fait que le marché hypothécaire, combiné avec une arrivée d'immigration qu'on a vécue dans les dernières années, il y a du renouvellement hypothécaire, puis c'est toujours en hausse. Donc, le chiffre d'affaires va être appelé à progresser parce que l'actif sous-jacent est en croissance. Ce qui fait que tu as une expansion aussi de crédit. T'sais, si on regarde 1980 aujourd'hui, l'usage du crédit a changé, il est beaucoup plus démocratisé. Puis finalement, comme je mentionnais tantôt, depuis la crise financière, bien, on n'a pas vraiment eu de récession, on n'a pas eu de coup dur. Puis on oublie des fois que les banques, ça reste un modèle qui est sensible à l'économie. Le revers de la médaille, c'est que les banques, aujourd'hui, si on regarde au Canada, principalement, sont vraiment reliées aux hypothèques, en particulier résidentielles, au marché de l'immobilier ou commercial. La majorité des banques canadiennes, oui, il y en a certaines qui font des entrées aux États-Unis, mais le crédit est vraiment relié à la santé du consommateur canadien. Puis comme je dis, on a des changements en ce moment avec l'immigration. Puis on peut avoir des changements d'un consommateur qui vit aujourd'hui l'inflation, qui vit aussi des renouvellements hypothécaires. On dit en 2025, ça va être une année de renouvellement. Donc, est-ce que le contexte va être aussi favorable? Puis finalement, on vit de l'incertitude d'un point de vue économique avec nos partenaires au sud de la frontière et on a des grands investissements à faire pour ramener une certaine souveraineté. Comment l'économie canadienne va s'en sortir? On voit l'écart de productivité entre nous puis d'autres nations aussi. Donc, la thèse économique dominante n'est pas nécessairement la même qu'on a connue depuis 20 ans. Puis là où je veux mettre l'accent sur le cœur de l'enjeu, c'est qu'au Canada, par rapport aux États-Unis, depuis la crise financière, on a un phénomène qui a complètement changé. C'est que l'endettement des ménages par rapport à leurs revenus disponibles est en croissance dans un environnement où les taux d'intérêt ont réaugmenté, mais quand même dans un niveau quand même stable. Mais ça, comme je mentionne, ça peut affecter la santé, la consommation, qui est à peu près 70 % de l'économie du pays, puis qui a un impact directement sur le chiffre d'affaires de ces banques-là. Donc, qu'est-ce qui peut changer la donne? Il faut garder un œil prudent sur l'immobilier, parce qu'une part élevée des bilans des banques, c'est relié à l'habitation. C'est un marché, je ne dis pas qu'il va y avoir un crash, tout d'un coup, une deuxième crise financière, mais je dis peut-être que les prix des maisons vont stagner pendant un certain temps. Peut-être que la mobilité ne sera pas aussi fréquente parce que les gens ne vont pas vendre leur maison nécessairement à profit puis vouloir en racheter un autre. Peut-être qu'ils vivent avec des rehaussements hypothécaires, peut-être qu'ils ne vont pas autant rénover par rapport à ça. L'endettement au Canada, ça reste qu'on est un des les ménages canadiens sont les plus endettés du G7. Puis à un certain moment, on ne peut pas toujours voir cette augmentation-là progresser. Aussi, des fois, on a une perception de diversification. Une personne va avoir 3 banques, 4 banques, 5 banques canadiennes. Puis si on regarde leur performance dans certaines périodes de stress, bien, en fait, il y a peut-être une corrélation assez forte qui fait que cette diversification-là n'est pas vraiment présente. Puis finalement, le Canada, c'est un marché qui est domestiquement mature et on a un vieillissement de la population, on a des variances au niveau de l'immigration, on a moins de gains de productivité, donc on a moins de croissance structurelle, moins d'investissements de la société étrangère vers le Canada, les entreprises aussi canadiennes n'investissent pas nécessairement autant, puis on a de l'incertitude au niveau de l'expansion internationale des entreprises, mais aussi de nos banques canadiennes qui ont été en Amérique latine, que certaines d'entre elles pensent se retirer. Aux États-Unis, on a eu des succès, des moins bons succès. Donc, ici, c'est pas de remettre en question la thèse d'investir dans des banques. Je pense que c'est un modèle d'affaires très intéressant. Ça a sa place dans un portefeuille. Par contre, il faut rester lucide puis se dire, est-ce que ce que j'ai connu dans le passé va nécessairement se répliquer? Puis deuxièmement, est-ce que le poids que j'ai après la hausse que j'ai vécue dans la dernière année est toujours raisonnable par rapport à l'incertitude dans laquelle on vit? Donc, c'est pour vous aider à pousser cette réflexion-là. Je vous remercie toujours de nous écouter puis on se reparle la semaine prochaine.